Bonjour, mardi 25 juillet, je vous souhaite une excellente journée. C'est un plaisir de vous retrouver pour une autre édition de Aime l'été. Ici Chantal Lavoie, nous profitons de cette prochaine heure pour parcourir le Québec à travers ses différents événements, ses activités nombreuses, variées et colorées, ses expositions, ses foires, ses festivals, mais aussi ses propositions urbaines qui nous surprennent, nous plongent dans différents univers, interactifs et ludiques. On ne manque pas de lieux où se divertir et se ressourcer, et parfois deux pas de chez soi. Alors soyez donc au rendez-vous au cours de la prochaine heure. Je vous invite à nous suivre avec nos invités à Aime l'été. Et aujourd'hui à l'émission, le blues est bien présent cet été à travers le Québec. Plusieurs festivals mettent cette musique à l'avant-plan. On rencontre Steve Hamilton pour nous parler du festival de blues de Donnacona, dans la belle région de Portneuf. Aussi une destination immersive incontournable cet été, au Palais des Congrès, Sweet Folly. Nous en discuterons avec Denis Lavigne, cofondateur et président d'Oasis Immersion. Mais d'abord, on file du côté de Saint-Hyacinthe pour la 186e édition de l'Expo Agricole. Je rencontre dans un instant David Messier, directeur général de l'événement. Bref, une belle heure à suivre. Bienvenue à Aime l'été. Et mardi 25 juillet, dans 6 mois, jour pour jour, nous déballerons nos cadeaux de Noël. Et oui, et comme c'est la tradition en ce 25 juillet, on célèbre le Noël du campeur. Le Noël du campeur, qui est une tradition des terrains de camping québécois, qui consiste à faire une fête au thème de Noël en plein été, le 25 juillet, en pleine période des vacances. Alors, la tradition qui remonterait au début des années 1960, en tout cas, plusieurs terrains de camping revendiquent la paternité de cet événement. Alors, sur ce, j'en profite pour remercier notre recherchiste Anaïs Sabourin pour l'émission d'aujourd'hui, et je salue aussi Nicolas Wartman à la mise en onde et au choix musical. Et puis j'accueille à l'instant David Messier, directeur général de l'Expo Agricole de Saint-Hyacinthe. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, et oui, ben c'est vraiment la 186e édition?
Absolument, absolument. Donc, l'Expo n'a jamais fait relâche, même dans en plein milieu de la pandémie, là, on avait fait une édition virtuelle. On voulait vraiment pas perdre le compte au niveau de nos éditions. Donc, c'est ça. On se prépare dans 48 heures là, à accueillir nos visiteurs pour la 186e édition.
Et voilà, du 27 juillet au 5 août, évidemment, cet événement qui a considérablement aussi évolué parce qu'on a ajouté plein de choses au fil du temps. Alors, vraiment, différentes facettes là, du milieu agricole à découvrir, bien sûr, parce que, bon, peut-être au début, là, si on remonte, si on fait la petite histoire, c'était, j'imagine, sans doute beaucoup pour promouvoir, finalement, la machinerie, quoi, auprès des agriculteurs.
Entre autres.
Et le bétail aussi.
Exactement, c'est ça. Ça a souvent été, les expos agricoles sont nés, en fait, de l'idée là, de faire des concours. Donc, il y avait des agriculteurs, agricultrices là, qui se mesuraient avec leurs animaux. Donc, c'était sous forme de concours, de compétition. Ça aidait à la génétique aussi. Donc, ça contribuait à améliorer là, les troupeaux. Donc, quand les agriculteurs là, se déplaçaient vers les expos, bien, là, ils pouvaient voir la qualité des animaux de d'autres troupeaux chez d'autres de leurs confrères. Et à ce moment-là, ils pouvaient soit acheter la bête et l'amener dans leur troupeau pour améliorer leur cheptel aussi. Donc, c'est de là qu'est né les expos là, plusieurs années. Et bien évidemment, comme vous l'avez mentionné, ça a évolué au fil du temps. Il y a effectivement de la machinerie qui s'est intégrée aux événements. Puis aujourd'hui, bien, si je prends la nôtre, en fait, celle de Saint-Hyacinthe, c'est vraiment une combinaison entre les concours, évidemment, sont toujours là. Ça fait qu'on a autour de 800 animaux de la ferme là, sur le terrain pendant 10 jours. Mais il y a aussi plusieurs activités éducatives et ludiques pour la famille, leur faire découvrir justement l'agriculture et leur en faire savoir plus là, sur notre beau milieu.
Oui, effectivement, c'est un endroit aussi pour amener les enfants, enfin pour leur faire découvrir tout un univers finalement, un univers auquel ils ne sont plus confrontés puisque bien sûr, souvent ce sont des grandes... les fermes familiales, on sait, c'est en perte de vitesse, si on veut, c'est-à-dire que c'est remplacé souvent par de grandes fermes industrielles. Alors, c'est sûr que même les jeunes perdent ce contact-là avec la terre. Alors vraiment, c'est une belle façon de leur faire voir tout l'éventail de ce qui se passe, concernant notre patrimoine agricole.
Tout à fait. Puis c'est certain qu'avant, on avait peut-être un cousin, une cousine, un membre de la famille, un ami à l'école, tu sais, qui était justement, qui faisait partie d'une famille agricole. Aujourd'hui, ce contact-là, il est moins là. Donc, les expos répondent à ce besoin-là. Donc, les gens, justement, en famille avec des jeunes enfants, évidemment, ils ne s'en viennent pas à l'école. L'objectif, c'est pas non plus de leur faire une journée là, tu sais, seulement d'apprentissage. Il y a beaucoup de plaisir au travers des activités, avec les manèges, ces choses-là. Mais évidemment, le focus de l'événement, c'est vraiment à ce que jeunes et moins jeunes en apprennent plus sur la réalité des agriculteurs et des agricultrices, mais également aussi puissent vraiment se familiariser puis découvrir le milieu de l'agriculture. Donc, sur plusieurs formes, que ce soit au niveau laitier, au niveau avicole, porcin, on a des chèvres, on a des moutons, on a des alpagas, ça va jusque-là, on a même des insectes, tu sais, aussi, tu sais, avec... Donc, tu sais, on veut vraiment toucher très large. Donc, c'est notre créneau, c'est notre mission aussi. Donc, on s'assure de varier nos activités.
Ouais, c'est
pour
ça.
Pour être en mesure c'est ça, que les gens, après qu'ils aient vécu leur journée à notre événement, ben en ressortent en connaissant plus sur le milieu, mais en ayant aussi une journée de plaisir.
C'est ça. Donc, effectivement, puis là, on pense, évidemment, j'essayais pendant que vous me parliez, là, j'essayais de trouver, j'ai un blanc de mémoire concernant, vous savez, autrefois, là, on se faisait une image des hommes forts, des hommes forts du Québec, là, puis il y a un nom qui m'échappe, là, celui qui est très renommé, on a fait un film sur sa vie, d'ailleurs, mais je veux dire, on a, exemple, le tir du tracteur, ce genre d'événements-là, on les retrouve encore.
Absolument. Donc, on a... En fait, on a des soirées d'adrénaline là, qu'on aime nommer, donc évidemment avec des tirs de tracteurs. On a deux soirs, donc les vendredis, samedis. Donc ça, c'est une tradition qui se poursuit. On a aussi des trois soirs de rodéo, donc avec plusieurs participants du Québec qui compétitionnent là, sur un circuit. Et on a trois autres soirées aussi qui est du derby de démolition, donc une activité quand même abordable, familiale aussi, mm-hmm. que les gens aiment assister. Mais c'est au travers de, je vous dirais, ce qui est très apprécié aussi, puis en fait assez majestueux, c'est on a des soirées d'attelage avec les chevaux où on voit là, des 2, des 4, 6, 8 et même 10 chevaux là, attelés. Qui se promènent là, sur le site. Ils sont tous bien synchronisés, tous bien soignés, peignés et tout.
Ouais,
Les cavaliers et cavalières sont bien habillés aussi. Donc ça, c'est spectaculaire.
Tout à fait.
Ça permet vraiment d'avoir une proximité aussi avec ces animaux-là. Donc, on passe du tir de tracteur à l'attelage de chevaux, mais c'est vraiment éclaté là, t'sais, comme activité de programmation. Puis ça donne... ça vient, là, je dirais, souvent compléter la journée d'activité. Là, les gens peuvent s'asseoir puis apprécier ces spectacles-là.
Exact. Et puis, on peut danser aussi tous les jours, là, à 13 heures. Il y a quand même des écoles de danse qui sont là pour nous montrer à danser. Enfin, on pense à la danse en ligne, très populaire, hein?
C'est ça, absolument.
Alors, donc, ça peut être une activité complémentaire, tout à fait.
Exactement. Ben, en fait, c'est ça l'objectif, c'est des... Comme je le mentionnais plus tôt, donc on est dans le plaisir, c'est festif, ça reste un festival évidemment, donc les gens ont envie de bouger, ont envie d'être dehors, donc oui, c'est assez populaire en fait. L'année dernière, on n'avait pas ramené, en fait, suivant la pandémie, là, notre town country, là, mais en fait, on ne l'avait pas ramené, puis on avait reçu quand même plusieurs commentaires de visiteurs qui souhaitaient son retour, alors on revient avec l'expérience cet été, donc en plus avec les rodéos, ça donne bien, ou avec nos activités avec les chevaux aussi. Donc, c'est assez connexe comme activité avec qui s'intègre bien à l'expo. Donc, c'est en activité là, pendant les 10 jours de l'événement.
C'est ça. Donc, alors évidemment, tout le volet familial là, pour les jeunes, pense à mini-golf, mini-ferme. Alors vraiment, un carrousel de poney, hein, bien entendu. Vous avez parlé tout à l'heure des alpagas. Ben, on peut effectivement en voir. Alors, c'est vraiment, bon, tout est réuni, autant les poules. Alors, évidemment, on peut sensibiliser aussi les jeunes par des ateliers d'écologie. Vraiment, ça peut être... Il y a des ruches aussi éducatives.
Ouais,
On peut voir les
exactement.
abeilles. Alors vraiment,
C'est ça.
et puis je pense même pour, ben c'est ça, j'ai vu aussi la Fondation Mira qui est sur place également avec leurs chiens.
Oui, tout à fait. Donc, c'est une opportunité pour eux de d'amasser des sous, en fait, pour la Fondation, d'expliquer, de vendre la cause auprès des visiteurs. On a la Fondation Leski qui sont là également avec leurs chiens. Mais en fait, l'objectif, nous, c'est même avec le côté agricole, évidemment, avec toute la liste des animaux que vous avez nommés, mais ces animaux-là sont... Non seulement, eux, sont accessibles, les gens peuvent les voir de près, se faire prendre en photo, mais aussi, c'est que les éleveurs sont juste à côté. Donc, ça permet un échange super riche là, entre justement le visiteur, le public urbain qui connaît moins cette réalité-là. Puis l'éleveur peut expliquer, ils ont le temps, en fait, d'échanger ensemble sur justement la réalité avec l'animal, avec un peu la production. Donc, c'est vraiment...
C'est très varié, parce que, bon...
C'est très varié.
Oui, parce que vous parliez même d'insectes, là. On parle animation sur les insectes comestibles.
Voilà.
C'est ça, donc, par l'Association des éleveurs. Oui, dégustation, pourquoi pas, ben oui.
Exact. Donc, c'est ça, on veut ratisser très large sous plusieurs formes d'agriculture.
Ouais. Autant pour les semences aussi, vraiment.
Voilà.
Oui, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Évidemment, bon, on a parlé, évidemment, il y a des spectacles aussi. Bon, il y a le volet musical.
Donc, la soirée, il y a des spectacles pour enfants qu'on a la fin de semaine. Et on a des spectacles aussi avec plusieurs styles d'artistes. On parlait du country tantôt avec la tante au niveau de la danse en ligne, mais on a aussi des artistes country qui vont venir se produire sur notre scène. Donc, c'est 9 soirs là, de musique. Puis, en fait, on a voulu, un peu comparativement à d'autres années, vraiment animer au niveau musical les soirées. Donc, ça commence à partir de 5 heures tous les soirs. On a des chansonniers qui commencent l'ambiance. Après ça, on a le spectacle sur la grande scène. Puis les chansonniers reviennent. Et tout ça aussi avec la tente, le country, où il y a la danse. Donc, c'est vraiment festif.
Ça fait une belle suite,
animé,
oui.
Là, pendant
c'est
la
ça.
Soirée, exactement.
Ouais.
Et sans oublier les manèges aussi qui sont en action. De midi à minuit. Donc, c'est un beau parc de 25 manèges qu'on a accessible pour les jeunes et moins jeunes aussi. Donc, ça amène beaucoup d'ambiance là, sur le terrain pendant ces activités-là.
C'est ça. Donc, effectivement, il y a, évidemment, je nomme des noms comme ça vitement là, pour les spectacles. On pense à Éric Grégoire, Kevin Hébert, Sébastien Brault, Gab Lemaire, mais aussi Pépé et sa guitare, hein, que l'on voit se promener un petit peu de festival en festival et qui sera là vendredi à 20h. Donc, ça, lui, c'est quand même quelqu'un de très apprécié. Vous avez aussi... parce que là, ça se poursuit jusqu'à la semaine prochaine, donc du 27 juillet au 5 août. Alors, ça fait quand même plusieurs journées, bien sûr, à animer et tout. Alors, mercredi 2 août, la grande messe qui rend hommage aux Cowboys fringants.
Oui,
c'est
donc
ça.
Ils font partie de notre programmation.
Exactement, comme
vous l'avez mentionné. C'est le site de l'expo, c'est 415 000 pieds carrés d'activité. Pendant 10 jours, de 10h à minuit. Donc, c'est quand même assez, je dirais, c'est beaucoup d'organisation pour en arriver à présenter autant d'activités durant les 10 jours.
Oui.
Donc, on essaie vraiment de créer des rendez-vous aussi dans cette programmation-là, parce qu'à un moment donné, il y en a tellement d'activités que ça peut être difficile même pour le visiteur de s'y retrouver. Donc, on peut assister... à l'heure de la traite, avec les vaches, même nourrir les veaux aussi. Donc, tout ces moments-là.
Oui, ça, c'est l'heure du biberon. Prévus. C'est ce que vous appelez l'heure
absolument.
Du biberon.
Exactement. Donc, les petits veaux, ils l'attendent, cette heure-là. Ils ont bien hâte. Donc, et les enfants aussi, c'est très populaire. Donc, c'est ça. Fait que dans la programmation, on crée ces rendez-vous-là pour que, justement, on s'assure que, bon, les gens puissent mieux planifier leur journée, puis essayer d'en voir le plus possible. Donc, on essaie que ça soit pas tout en même temps non plus. parce que sinon ça devient vraiment difficile là, pour les familles de se retrouver avec le lot d'activités qu'on retrouve sur notre événement.
Et puis ajoutons aussi samedi, en fait je pense que c'est samedi de la semaine prochaine, hein? Je pense que c'est le dernier soir, l'hommage à Queen.
Voilà, donc on termine notre 186e édition avec justement un spectacle hommage à Queen, donc sur notre grande scène là, musicale. Alors, on termine ça en beauté.
Mais oui, absolument.
Donc, c'est ça, c'est notre troisième et dernière soirée du Derby de démolition et par le fait même la fin de notre 10e journée de l'événement, c'est avec ce spectacle-là. Donc, ça va mettre de l'ambiance, ça va être Queen en plusieurs succès, c'est des chansons qu'on connaît bien.
Oh oui, ça c'est sûr, ça va vraiment donner le ton à une soirée absolument festive. Et puis, bon, il y a aussi parmi les nouveautés cette année, en fait, on parlait de, en fait, la présentation. Ben, quand vous parliez tout à l'heure d'un attelage de 10 chevaux en pyramide, mais il y a aussi l'expérience interactive pop, la culture s'éclate.
Exact. Donc ça, c'est une... On cherchait une façon aussi d'avoir un élément un peu plus interactif au travers de nos activités. Puis on a été approché par la firme Lucion. Puis pour présenter justement, en fait, c'est un bel aménagement dans notre pavillon. Alors on voit, de façon interactive et animée le passage. T'sais, en fait, on passe du grain de maïs à au popcorn. Donc, fait que c'est puis les gens en fait se voient aussi là, ils se font prendre en photo au début, puis sont comme partie prenante en fait là, de l'évolution, si je peux dire ça comme ça, du grain de maïs là, jusqu'au popcorn qu'on déguste là. D'ailleurs, à l'exposition, on a quelques vendeurs de tout ça, mais en même temps, c'est que ça donne donc évidemment, c'est un aspect éducatif par rapport au grain, mais ça amène un côté ludique au travers de l'activité. Donc, les gens circulent au travers du théâtre interactif puis voient le chemin là, parcouru de la terre vraiment jusque dans notre bol là, à regarder.
Ah, ça, c'est intéressant. Oui, tout à fait.
Exact.
Bon, ben c'est magnifique. Et puis, ben évidemment, on va en profiter pour aller manger du blé d'Inde. C'est important.
Oui.
Ça fait partie d'eux.
Oui, c'est ça. Ça fait partie de l'expérience.
Et oui.
Donc, on l'a aussi, évidemment, c'est... On a une offre de restauration, bien sûr, mais aussi on veut mettre en valeur nos producteurs transformateurs de la région.
Ouais.
Donc, on aura du maïs aussi. Puis on a même nos pour les tout-petits, on a même ce qu'on appelle la cuisine des petits, justement, qui peut venir. Donc, on a un partenariat avec Manger Québec. Donc, c'est des collations, là, des recettes collations que les jeunes peuvent préparer avec des légumes fournis par les producteurs. Donc, ça les incite là, à découvrir justement les bons côtés des légumes. Donc,
tout à fait.
Évidemment, on peut pas passer à côté. Ça fait partie de notre créneau, évidemment, de notre mission. Alors, je vous dirais qu'on l'exploite aussi là, au travers de nos activités pour les enfants.
Alors, c'est ça. Et puis, bien sûr, tous ces produits de la terre, il faut les transporter. Alors, même le port de Montréal est présent. On peut en apprendre davantage sur les activités comme telles du port de Montréal et tout. Alors, c'est vraiment complet. Hein? C'est quelque chose. Ouais. Alors,
bon. C'est un beau jour d'activité.
Oui, tout à fait.
Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges aussi. Alors, on souhaite de la belle météo. C'est vraiment l'élément qu'on contrôle moins.
Mais c'est bien parti cette semaine.
Oui, à date, ça regarde bien.
Mais en tout cas, l'expo qui est toujours aussi populaire après toutes ces années, quand même, c'est remarquable. Ça veut dire que vous avez réussi vraiment à chaque fois à vous renouveler aussi en même temps.
On a une belle équipe. On a une belle équipe qui travaille fort. C'est vraiment dans les objectifs à chaque année de pas toujours répéter la même formule non plus. On est avec nos administrateurs aussi qui sont des producteurs agricoles. Donc, on est collé à leur réalité aussi. Donc, ça aide l'équipe là à travailler sur une programmation toujours au cœur de notre mission. Mais
c'est
en même temps,
évolutive, avec aussi
voilà.
Dans la perspective, évidemment, des changements climatiques et de tout ce qui se passe, bien sûr. Hein, on en a... En fait, on en a un bel aperçu, là. Enfin, pas un bel aperçu, mais un aperçu cette année, tout ce qui se passe côté climatique. Alors, ben, merci infiniment d'être venu nous en parler de cette expo agricole de Saint-Hyacinthe. Donc, 10 jours de belles activités. Alors, ça commence le 27 juillet pour se poursuivre jusqu'au 5 août. David Messier, merci bien d'être venu nous en parler.
Un grand merci de l'invitation.
Au plaisir. Et
À bientôt.
OK, au revoir.
Au revoir.
De ne plus t'écouter. Comprends que ta parole est sèche quand je suis assoiffée. Ne me parle pas de sécurité. Je sais que tu marches en toi-même comme en terrain miné. Je passerai pas ma vie à m'inquiéter comme toi. Pourquoi tu restes malheureux? Tu prends pour la réalité les ombres au fond de tes yeux. Je n'ai pas besoin de ces démons-là.
Amélie Veil, un moment, ma folie.
Voilà, la folie, oui, parce qu'on parle de Sweet Folie à Montréal, l'expérience immersive présentée au Palais des Congrès. Et j'accueille Julie Castonguet, qui est la productrice exécutive d'Oasis Immersion. Bonjour.
Bonjour, enchantée.
Ah, ben oui, ça me fait plaisir de vous accueillir. Et puis, effectivement, c'est tout un, en fait, un programme que vous nous offrez, programme qui roule depuis un certain temps. Mais là, il y a Sweet Folie qui s'ajoute au programme, évidemment, avec, bon, on pense à Van Gogh qui était présenté, on va en parler, bien sûr, Transformé aussi, deux belles expériences immersives aussi. Et puis, là, Sweet Folie qui s'ajoute, alors... vraiment. On va parler d'abord d'Oasis Immersion, là, de ce projet, de ce que vous faites exactement. Vous êtes très impliqué dans toutes sortes de projets. Je pense l'année passée, vous avez quand même, avec le National Geographic, vous avez présenté aussi un projet dans le cadre de la COP15 sur la biodiversité.
Oui, on a présenté One World, One Chance, qui a été un projet qui est arrivé rapidement chez nous, parce que quand la COP a été annoncée, donc pour avoir lieu au Palais des Congrès, National Geographic qui chapeaute un projet qui est qui est voyons, je cherche le nom du projet, excusez-moi, mais sur la
COP. Je l'ai peut-être ici là, remarqué. Alors, c'est. Ben, c'est-à-dire que là, c'était pour transformer, transporter le spectateur dans des écosystèmes.
Exact. En fait, c'est que les délégués, on voulait offrir une expérience immersive pour les délégués qui étaient de passage au Palais des Congrès, qui étaient quand même très nombreux, pour leur rappeler l'objectif de leur rencontre dans le cadre de cet immense événement de la COP 15 et leur montrer la beauté de la diversité et leur faire l'éloge de cette biodiversité-là qu'on doit protéger. Donc, on a créé en collaboration avec National Geographic et avec leurs images et des collaborateurs locaux également, une expérience de 15 minutes environ qu'on a présentée en rotation continuellement dans la grande galerie qui est la galerie Panorama chez Oasis Immersion. Donc, les délégués étaient invités à passer quand ils voulaient s'installer là, regarder le visuel, se laisser imprégner par la beauté.
On était autant dans l'Arctique, la savane, la jungle, dans la mer, rivière, sommet de montagne. Bref, c'était vraiment, on pouvait voir la richesse, effectivement, de cette biodiversité et tout. Alors, vous avez aussi, je pense, un autre projet, la vitamine immersive. C'est sur le mieux-être et la santé mentale.
Oui, c'est un projet qu'on fait en collaboration avec la piscine, l'incubateur d'idées quand même bien reconnu chez nous, qui sont à la base de plusieurs belles idées innovantes, et avec aussi les chercheurs de l'Université Laval à Québec, qui est la chaire de recherche Relief. Donc, on a complété un volet, une phase 1 de la vitamine immersive duquel est sorti le livre blanc, qui était un exercice de voir à quel point, en fait, l'immersion peut favoriser le bien-être chez l'être humain, chez le visiteur qui vit cette expérience-là. Et là, on va déployer la phase 2 à l'automne, donc en partenariat également avec Beneva, qui nous aide à propulser cette deuxième phase de l'expérience de la vitamine immersive, qui va continuer un peu dans la même veine, donc démontrer de quelle manière l'immersion peut faire du bien et aider les gens à se sentir mieux, aussi à collaborer entre eux, et puis il y aura plus d'informations qui vont
C'est fascinant. Enfin, c'est vraiment la technologie liée à la créativité. Évidemment, là, on sait que, avec l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup ces temps-ci. Alors, ça ouvre un monde de possibilités. Oui. Bien entendu, vous étiez déjà sur une bonne piste. Alors, c'est sûr que ça crée. Et puis, dans le domaine, finalement, du divertissement aussi, ça offre plein de possibilités. D'ailleurs, c'est ça. On en a un bel exemple dans le cadre du Palais des Congrès actuellement. Alors, on va parler. Vous savez, on va devoir tout à l'heure, on va s'interrompre pour une pause publicitaire, mais on va parler, évidemment, de ces programmes immersifs que l'on a présentement, que l'on a programmé, je m'excuse, notamment Sweet Folly. Alors, c'est ça. Donc, technologie toujours vraiment très à l'avant-garde. Là, on parle évidemment, c'est quand même sur 2000 mètres carrés de surface de projection. Exactement. C'est quand même assez impressionnant. Alors, Julie, on s'arrête et puis effectivement, on reprend tout ça puis on fonce dans notre sujet après la pause.
Merci.
Tout l'été aime l'été.
Alors, on retrouve à l'instant Julie Castonguay, qui est la productrice exécutive d'Oasis Immersion, bien sûr. Alors, en fait, on a mis la table tout à l'heure un peu par rapport à à ce que vous faites dans la vie. Bon, et puis là, on va parler des expositions qui sont présentées au Palais des Congrès présentement. On va parler notamment de Van Gogh, cette belle expérience auquel vous nous conviez depuis un petit moment, mais ça continue. Alors vraiment, on pense à 225 tableaux, là, et puis vraiment, parlez-nous-en de ça s'appelle Distorsion.
Oui, donc Distorsion, Van Gogh est une œuvre qu'on a créée un peu suite à la vague de cet hommage à la peinture que les espaces immersifs font. On le voit beaucoup, Distorsion, ça a été... c'est une expérience qui est unique, qu'on n'a pas vue ailleurs encore. Souvent, les gens sont
c'est
un peu confus.
C'est pas la même exposition qu'on a pu voir ailleurs, à l'Arsenal notamment. Non, c'est pas ça du tout.
Exactement.
C'est autre chose.
C'est une exposition qui a été créée en collaboration avec Normal, qui est un studio de Montréal. Et donc, Distorsion, c'est un parcours en trois temps. Donc, la première galerie, on voit ses œuvres, mais en format croquis. Donc, c'est une galerie qui est entièrement en noir et blanc. On voit aussi certains extraits de ses échanges qu'il a eus avec son frère, qui était quand même un élément important de son inspiration. Mm-hmm. Exactement. Ensuite, dans la galerie 2, on s'est amusé à faire notre propre interprétation de sa technique et de ses thématiques en les transposant avec l'outil d'art génératif. Donc, qu'est-ce que Van Gogh aurait fait avec les outils créatifs numériques qu'on a actuellement? On s'est amusé à se l'imaginer et puis ça donne donc des œuvres entièrement numériques, donc en art génératif, qui ont été créées, qui reproduisent un peu ça, ces coups de pinceau, les couleurs, les thématiques avec les soleils ou les tournesols, etc. Et quand on tombe dans la galerie 3, ben là, c'est le coup de grâce. Alors là, on est en immersion dans ses œuvres d'art, donc totalement immersé dans la grande galerie. Donc, on a le grand plancher qui est également interactif. Donc là, on tombe dans ces tableaux, vraiment comme si on y était, comme des personnages des tableaux eux-mêmes. Puis, c'est le coup de grâce de l'exposition dans la dernière galerie.
Oui, c'est ça. Vraiment, donc, c'est à la fois une expérience... émouvante aussi, qui est sensorielle, donc, on dit distorsion justement parce que, bon, ce sont une façon d'entrevoir les œuvres de Van Gogh dans un autre contexte complètement, comme vous le dites, là. Alors, ça peut effectivement voir, qu'est-ce que Van Gogh, c'est ça, comme vous dites, qu'est-ce que ça aurait pu être aujourd'hui, finalement.
Exactement. Puis Van Gogh, il a été aussi jugé dans son temps par ses collègues parce qu'il allait beaucoup représenter les gens normaux, il allait dans les champs peindre les artisans, les habitants.
Oui, les gens de café, du village, des villages. Quoi.
Exactement. Puis son coup de pinceau, parfois, était un peu, tu sais, était jugé comme étant distorsionné, comme s'il distorsionnait la réalité, parce que c'était pas une représentation
fidèle,
fidèle, ouais. mais il y avait vraiment son style bien à lui, fait que ça a été un peu.
Il était très, très moderne, à l'époque, c'est ça. Alors, c'était vraiment. Bon, et puis là, vous nous amenez après ça. Là, c'est l'horaire qui change, c'est-à-dire de ces expositions-là, finalement, de ces expositions immersives. Alors là, on a aussi, on peut aussi choisir d'aller voir transformer.
Oui, en fait, on a amené ce concept-là de programmation il y a un peu plus d'un an maintenant, où on fait un peu à la méthode, un peu comme les cinémas, on présente différentes expériences à différentes plages horaires. Donc, il faut comprendre que chaque expérience demeure complète, c'est-à-dire dans le parcours en trois temps, dans les trois galeries, mais sont diffusées donc à des plages horaires spécifiques. Donc, on a poursuivi avec Transformer, qu'on a lancé en janvier dernier, qui est notre expérience, je dirais, la plus narrative, qui est une expérience qui aborde la thématique du courage et la thématique de l'empathie. Donc, on fait un genre d'hommage aux expériences VR, car cette expérience-là transformée est issue d'œuvres qui ont été initialement conçues pour des casques en réalité virtuelle.
Voilà, là, donc, c'est ça. On aborde vraiment, on s'en va vers la réalité virtuelle.
Sauf qu'on n'a aucun casque, évidemment, dans les galeries, il faut bien comprendre. Donc, c'est juste qu'on a transposé cette technologie-là dans une technologie en immersion, en projection,
d'accord,
donc en 360, mais en projection. Donc, c'est très, très différent comme expérience. Mais ce sont toutes des expériences extrêmement touchantes, qui sont des faits vécus. Des fois, on aborde des sujets qui sont un peu plus difficiles, comme la schizophrénie, l'esclavagisme. On aborde aussi...
C'est à travers huit récits, je pense, à
exactement,
peu près.
Exactement, huit récits, huit faits vécus, notamment le deuil également. Mais ce sont toutes des expériences extrêmement touchantes puis qui laissent le visiteur avec une émotion puis une prise de conscience, je dirais... sur la beauté de la vie, finalement, et cette fragilité-là des aventures qu'on peut vivre à travers une vie.
Donc, à la fois, il y a côté réflexion là-dedans. Et puis, bon, je sais que c'est vraiment, ça peut même toucher beaucoup les gens au point ça peut faire pleurer aussi les gens. Oui, c'est ça, c'est assez percutant, donc, effectivement. Alors, vraiment, cette expérience-là aussi est fort intéressante, donc transformée. Alors, on a parlé de Van Gogh, distorsion, également transformé. Et là, on tombe dans un autre registre complètement, beaucoup plus ludique, amusant, déjanté. Alors là, c'est Sweet Folly.
Sweet Folly. Sweet Folly, c'est notre belle programmation d'été.
Colorée et tout.
Exactement. C'est un 70 minutes de festif, complètement absurde, même voire humoristique. C'est une expérience vraiment unique, qui est contemplative, oui, mais qui est aussi participative, contrairement à la plupart de nos autres expositions. C'est-à-dire qu'on invite vraiment les gens à se déplacer dans les galeries, à s'amuser. L'interactivité dans la grande galerie est abordée un peu plus comme un jeu, c'est plus playful, je dirais. Puis qu'est-ce qui est magnifique de cette exposition-là, je dirais, c'est que c'est vraiment une exposition pour les neuf, les 0 à 90
ans. Oui, parce que c'est ça, les jeunes peuvent s'amuser follement. D'ailleurs, oui. Je pense qu'il y a une section où on peut chasser des images au sol.
Exactement.
Alors, c'est pour les jeunes, c'est vraiment intéressant.
C'est pour les jeunes, mais c'est vraiment très familial, je dirais, parce que c'est un peu à la méthode des films de Pixar, où est-ce qu'il y a différents niveaux de langage. Donc, l'adulte va trouver des éléments très, très humoristiques, un peu psychotroniques, amusants. Puis, les enfants vont trouver aussi des jeux, des images qui vont les faire rire, qui vont les amuser. Fait que ça va vraiment chercher tout ce range-là, pardonnez-moi.
Oui, mais effectivement, mais c'est très
varié. De tous les âges.
Ouais, ouais. Oui. Donc, c'est ça, une célébration de l'imagination, la créativité, de l'émerveillement. Alors vraiment, c'est donc une nouvelle tendance, enfin, je dirais, dans le monde du divertissement, Oasis Immersion. C'est vraiment fort intéressant de pouvoir jouer à l'infini, finalement, de laisser place à la créativité. Alors vraiment, ça, c'est vraiment Sweet Folly, très ludique et puis une belle immersion avec très colorée, forcément, très vivante. Le son aussi, hein, toujours très présent.
Oui,
donc, une technologie toujours à la fine pointe.
Le son, pour nous, est extrêmement important dans l'immersion. C'est pas une immersion vidéo uniquement. On vit l'immersion par l'audio aussi, par cette spatialisation-là. Donc, on fait dans les galeries où est-ce que le son est placé de manière très, très précise à certains endroits. Puis pour Sweet Folly, d'ailleurs, je tiens vraiment à souligner, bien, entre autres, le contenu vidéo qu'on a créé avec Collegram, qui est un studio de Montréal extrêmement talentueux. Mais les musiques aussi originales qui ont été créées par Totalement Sublime et Ilia Gafouri, qui nous amène vraiment à un autre niveau de compréhension, mais d'amusement aussi. C'est très, très festif aussi au niveau audio.
Exactement. Donc, vous pouvez collaborer avec des compositeurs et puis des compositrices. Enfin, bon, c'est vraiment très intéressant. Mais donc, ce parcours, là, dans le cas de Sweet Folly, vraiment, au début, beaucoup plus zen, méditatif. Alors, vraiment, vous êtes... Ça, c'est Murmure, hein,
oui.
Ça. Bon, après ça, vous avez Charivari, très coloré. Vraiment, là, on tombe dans autre chose. Et puis, c'est ça. Et après, c'est Bingo Bango. Et là, c'est là qu'il y a de l'interaction avec pour les jeunes, justement.
Oui, la grande finale. Donc, en résumé, donc, c'est ça. La première galerie, c'est une galerie plus calme. Donc, on se coupe du monde extérieur. Puis, on fait la découverte de l'univers de notre grand personnage principal, qui est Junior. Personnage super attachant. Puis, qui est très rigolo. On se rend compte, donc, dans la galerie 2. Quand on rentre dans la galerie 2, donc, on tombe dans la tête et dans l'imaginaire de ce personnage-là, qui est Junior, qui crée des gifs et des personnages animés sur son ordinateur avec ses amis. Et puis là, on se retrouve dans un musée de gifs. Donc, tu sais, c'est là aussi qu'on amène les gens à bouger dans la galerie, parce que souvent, les gens rentrent dans la galerie, s'installent, ils restent très poliment assis pour pas bloquer la vue de personne. Mais là, on n'a pas le choix de se promener pour aller découvrir les différents éléments de ce musée de gifs-là qui est affiché sur les murs et au plancher. Donc, on est dans l'imaginaire de Junior. Et Bingo Bango, c'est vraiment la célébration. Il y a plein de personnages qui passent. On est dans des jeux. On invite les gens à participer, à collaborer justement pour trouver des trucs au sol avec nos systèmes interactifs qui fait amuser, qui fait des jeux, en fait, qui amène les gens à s'amuser entre eux, puis à répéter des gestes aussi. Il y a de la danse. On invite les gens à danser, à parader avec notre beau Junior qui fait un défilé de mode à un certain moment avec des habits complètement loufoques. Donc,
Alors, vraiment une belle expérience à faire en famille. Alors, c'est ça. Donc, trois programmes différents. Ben, vous choisissez vos heures, mais en fait, l'idée, c'est d'aller les voir tous les trois, parce que je pense que les trois, vraiment, valent absolument le déplaisement. Merci infiniment, Julie Castonguay,
d'être venue.
Ah oui, c'est vraiment... Alors, on ira vous voir absolument.
Vous êtes bienvenue, merci.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Bon été.
Je
300 de poids lourds me poursuivent et j'accélère. Je fonce à planche comme un trucker. Oh yes sir. Il me manque rien qu'un CD pour t'appeler. 1302 idées sont sur le bord de me dépasser. Je vais finir par déraper. Wow, Nelly. Y'a plus de place.
Annie Blanchard, Welcome Soleil.
Ben oui, c'est une artiste quand même qui chante du blues. Alors voilà, 16e édition du Festival de blues de Donnacona. On en parle avec Steve Hamilton, président du festival. Bonjour.
Eh bien, bonjour, ça va bien, vous?
Ah, ben absolument. Donnacona qui va vibrer au rythme du blues encore et encore. Et puis, bon, dans cette belle région de Portneuf.
Tout à fait, tout à fait. On est fin prêt à vous accueillir. On est quand même à presque une semaine de l'événement. Là. Ça se déroule
c'est
la
du,
semaine 2, prochaine,
du 2 au 6 août, c'est ça?
Tout à fait, tout à fait. Puis
oui.
On regarde la météo, puis la météo est très, très bonne pour nous. Là, pour
bah, ben, tant mieux, parce que vraiment, je sais que l'été a drôlement commencé, et puis
oui.
Pour bon nombre de festivals, ça a été très difficile. Alors, c'est sûr que c'est dommage aussi quand les gens sont en vacances, veulent en profiter. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut rien y faire, mais on se croise les doigts. Puis bon, alors, je vous souhaite du beau temps. En tout cas, c'est bien parti présentement. Là, ça se passe au parc Donnacona. Alors, bien des artistes encore qui... nous arrive cette année des artistes de partout. Alors, parlez-nous de ce festival là, qui en est, bon, quand même à sa 16e édition.
Oui, je vous dirais qu'on est quand même à la 16e édition. C'est un festival qui est mature, si on veut, qui a fait ses preuves parce que ce qu'on constate, c'est que les festivaliers reviennent année après année. Et les commentaires qu'on reçoit des festivaliers, parce qu'on jase avec notre public, si on veut,
ouais.
C'est la qualité des artistes, le professionnalisme de l'organisation et l'accueil. Puis au niveau des artistes, on a des artistes évidemment du Québec, on a du Canada, mais on attire aussi des artistes de l'international, soit des États-Unis
ouais.
Ou même de l'Europe.
Et oui, puis des gens qui sont connus, reconnus, évidemment.
Oui, tout à fait. Écoutez, cette année, si on prend du point de vue canadien, on a Steve Strongman et Jack DeKaiser, Steve Mariner, tous détenteurs de Juno. Du côté international, on a un habitué du festival, je vous dirais, qui est Lucky Dolly, qui vient de l'Australie, qui va venir compléter la formation de Steve Mariner. On a des gens de la France. On a quelqu'un du Danemark cette année. Thorbjørn Risinger.
Oui, d'ailleurs, j'ai
peut-être un peu son nom. Là,
je vous laissais le soin de le dire parce que j'allais pas, moi, me risquer à le dire, mais bon.
Mais c'est ça. Non, écoutez, on a quand même une belle brochette d'années en année.
Oui, Jack Broadbent, qui est un guitariste, chanteur, compositeur de blues rock britannique.
Exactement, exactement. Fait que donc, on commence à avoir, je vous dirais, une certaine reconnaissance au niveau international parce que c'est de plus en plus, entre guillemets, pas facile, mais quand on se présente puis qu'on appelle des bookers d'artistes en Europe, ben ils connaissent déjà le festival de blues de Donnacona, ce qui fait que au fil du temps, on commence à avoir un petit peu notre réputation de l'autre côté de l'océan, là, si on veut.
C'est ça. Donc, des gens vraiment qui sont très connus du monde du blues et puis autant ici, comme vous le dites, qu'à l'international. Alors, on y reviendra de toute façon. On regardera un petit peu ensemble ce qui s'en vient au niveau de la programmation comme telle. Mais c'est ça. Donc, le site comme tel au parc de Donnacona. Donc, ce sont des gens... effectivement, le blues a toujours eu sa cote. C'est peut-être quelque chose de plus niché, mais évidemment, il y a le public vraiment qui... est-ce qu'on peut dire que le public, c'est un public plus vieillissant? Comment ça se passe par rapport à la relève, là, justement?
Je vous dirais qu'en général, c'est probablement effectivement un peu niché dans un créneau d'une population de 40 ans et plus. Par contre, on constate que souvent, les 40 ans et plus amènent leurs enfants avec eux. Là, on voit de temps à autre quelques adolescents, mais généralement, c'est un public bon, un petit peu plus vieux, si on veut. Si on se compare avec des shows rock où c'est plus jeune. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'année en année, on a des nouveaux spectateurs, on a des gens qui reviennent régulièrement, mais on a toujours des nouveaux qui se présentent parce qu'on jase beaucoup avec notre public. Au fur et à mesure que la fin de semaine et la semaine se déroulent, on rencontre beaucoup nos festivaliers pour discuter avec eux, voir comment ils trouvent le festival puis avoir leurs commentaires. Mm-hmm.
Puis les artistes, eux, finalement, ben, des artistes de la relève, justement, en blues, bon, comment ça se dessine comment pour l'avenir?
Je vous dirais que on attire dans le fond les artistes qui ont déjà du matériel original à eux. On reçoit énormément de demandes, mais généralement, les artistes, c'est plutôt les artistes du Québec qu'on favorise, qu'on cherche à exposer, à faire connaître aux gens du public. C'est plus à eux qu'on donne une certaine priorité, dans le fond, pour justement avoir une portion de la programmation pour faire connaître ces gens-là qui sont encore un peu méconnus du public, mais qui offrent quand même un spectacle de très grande qualité.
C'est ça. Et puis, on a aussi ben, le blues. Bon, il y a quand même aussi des artistes, ben, des femmes qui également se sont fait connaître dans le monde du blues.
Oui, tout à fait. Puis écoutez, cette année, on reçoit Dawn Tyler Watson, qui est reconnue comme une des grandes chanteuses au Québec.
Oui,
on a Lise Annick de France qui vient avec nous cette année. On a toujours une certaine portion féminine. Puis je me rappelle, en 2019, on avait Erja Lehtinen, une dame de l'Europe, qui avait été nommée la meilleure guitariste féminine blues en Europe. En 2019, lorsqu'elle est venue, c'est quand même peu banal.
Effectivement, oui. Alors, c'est ça. Bon, je pense que, bon, il y en a une qui, évidemment, nous, enfin, ben, poursuit un petit peu là, dans le style Janis Joplin. Là.
Je vous dirais que je pense que c'est beaucoup plus Lisa Nick, mais je regarde Casey Taylor, elle a vraiment, qui est la fille de Otis Taylor,
ouais.
Qui a vraiment cette voix chaude, rauque un peu. Ça va être très intéressant.
D'accord. Bon, alors, plein d'artistes comme ça. Maintenant, parlez-nous un petit peu de l'organisation. Là, vous avez aussi un terrain de camping.
Oui, tout à fait. En fait, on est situé dans un parc. C'est le parc qui sert pour les activités récréo-touristiques là, du coin. Et la ville nous prête le parc pour la durée du festival. Ça nous permet d'aménager un immense chapiteau. Donc, beau temps, mauvais temps, les spectacles ont lieu. Et on a un camping qui est situé à proximité. Et quand je dis à proximité, on est à peine à 100 pieds ou 30 mètres du site des festivités, finalement.
Ouais.
Ce qui permet, dans le fond, aux gens de pouvoir aller et venir, puis pas avoir à circuler en automobile après les spectacles. Donc, les gens couchent sur place, là, si on veut. Là,
ben oui, c'est beaucoup plus avantageux. D'ailleurs, j'imagine que le public demande aussi ce genre d'aménagement. Alors, il y a les spectacles donc plus officiels là, qui ont lieu au parc. Alors, oui. Donc, ça, c'est vraiment tous les soirs. Là, mais bon, je pense aussi tous les spectacles qui sont présentés, soit dans les brasseries, micro-brasseries, les pubs et tout, là.
Oui, tout à fait. On a un volet officiel sous le chapiteau, mais il y a également un volet qui se déroule dans les bars qui sont situés à proximité quand même. Et dans ce volet-là, on retrouve souvent des artistes qui viennent en solo ou en duo. Mais la beauté de la chose, je vous dirais, c'est qu'on a souvent des duos improbables. Il arrive à l'occasion que certains artistes de passage au festival décident d'aller ni plus ni moins que jammer avec ceux qui sont en prestation dans les bars le soir, ce qui fait des fois des jams assez intéressants.
Oh, de belles rencontres, ouais.
Ben oui.
Tout à fait. On va aussi rendre hommage à la musique d'Eric Clapton.
Oui, cette année, je vous dirais qu'on innove habituellement. On n'a pas beaucoup d'artistes qui font ce qu'on appelle des covers, mais cette année, on a un groupe hommage à Eric Clapton. Eric Clapton, pour le domaine du blues, c'est quand même un artiste là, incontournable.
Incontournable, absolument.
Effectivement, ce qui fait qu'on a décidé de présenter ce groupe-là qui s'appelle Sixth, qui va être en prestation le dimanche après-midi.
Bon, parfait. Et puis donc, c'est ça, c'est un festival où finalement on peut à la fois camper, donc il y a plein de services, j'imagine, aussi sur place. Donc, c'est vraiment tout au long de, jusqu'au 6 août. Alors voilà, ça veut dire que c'est à partir ça, c'est le 2, c'est mercredi, je pense, hein, c'est ça?
Oui,
le 2
ben, en
août,
fait,
c'est mercredi
oui, c'est
prochain.
Ça. Exact. Mercredi, c'est une soirée un peu spéciale. C'est une soirée qui est offerte par la ville de Donnacona. C'est une soirée où il y a un spectacle d'un groupe hommage à ZZ Top et ça se déroule dans le parc des Anglais. C'est en plein air, c'est complètement gratuit. On l'intègre dans la programmation comme étant un des points marquants, mais le festival en soi débute le jeudi au parc de Donnacona et se termine le dimanche soir au parc aussi.
Alors, on va sur votre site pour avoir tous les détails. Donc, spectacle à 20h, effectivement, mercredi le 2 août. Et puis, bon, il y en a tous les soirs au parc Donnacona. Jeudi, on pense à Steve Mariner, Sean Chambers également. Et puis, il y en a bien d'autres, bien sûr. Vendredi, Casey Taylor, dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est aussi au parc Donnacona. Alors, voilà. Ben, écoutez, merci infiniment d'être venu nous parler de ce festival, 16e édition du Festival de blues de Donnacona. Ça a été un plaisir. Je vous souhaite un très, très bon festival.
Ben, merci. Puis écoute, on vous attend en grand nombre, tout le monde.
Merci infiniment. Au revoir.
Au revoir.
Merci, Steve Hamilton.
When somebody thinks you're wonderful, what a difference in your day. Seems as though your troubles disappear like a feather in your way. When somebody thinks you're wonderful, tells you with a smile so sweet, what a little stones you step upon, just a meadow neath your feet. But your heart still sings a song. When somebody thinks you're wonderful, love is mighty close to you. Just another thing more wonderful, making all the dreams come true.
but your heart still sings its song. When somebody thinks you're wonderful, love is mighty close to you. Just another thing more wonderful, making all our dreams come true.
Eric Clapton, When Somebody Thinks You're Wonder.
Et puis, le groupe Six de Nakona qui va faire une prestation justement pour rendre hommage à Eric Clapton au cours de ce festival de blues. Et oui, le blues hein, qui est apparu dans le sud des États-Unis au cours du 19e siècle. D'ailleurs, cette musique d'Eric Clapton, ça faisait très Nouvelle-Orléans un peu. Hein. Alors voilà, c'est le temps de vous dire au revoir. Je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi à tous et je vous retrouve demain mercredi à M l'été entre midi et 13h. Ici Chantal Lavoie. Au revoir.